On est de retour maintenant pour parler politique un peu parce qu'on va parler de ce qui se passe sur la scène fédérale. On l'a fait pendant toute la pandémie depuis 4 mois avec le ministre responsable de la région, mais surtout président du Conseil du Trésor et député de la circonscription de Québec, Jean-Yves Duclos, bonjour!
Bonjour Éric et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Monsieur Duclos, d'abord je veux qu'on commence par ce qui se passe présentement. Là, on voit, là, puis on vient de parler à la directrice de la santé publique là, de Chaudière-Appalaches, puis à Québec c'est la même chose. On voit que la pandémie est pratiquement inexistante. Là, la directrice de la santé publique là, nous donnait tous les endroits, ça arrive sud, où il y a carrément zéro cas. Il y a un seul endroit où il reste 17 cas actifs, mais il n'y a plus aucune hospitalisation. Aucun cas même déclaré. C'est la même chose à Québec. Là, tous les jours, ça ratatine comme une peau de chagrin. Est-ce qu'on est sorti de la crise? Là? Parce que là, on a l'impression qu'on voit la lumière au bout du tunnel.
Bien, j'aime ça l'entendre, Éric. On est tous très contents d'entendre que ça va beaucoup mieux à Québec, au Québec et même partout au pays. Mais il y a deux autres choses que j'ajouterais. La première, c'est que, évidemment, sans vouloir jouer le rôle d'éteignoir, là, de prophète de malheur, ben le virus est encore là. Puis la dernière chose, c'est que aux États-Unis, là, Éric, hier, il y a eu 150 fois plus de nouveaux cas que dans le pays au complet, au Canada au complet. 150 fois plus hier, ça continue d'augmenter. Fait que on voit ce qui se passe là, quand les gens, les gouvernements font pas leur job, là, ça peut changer rapidement.
Mais monsieur Duclos, faut faire attention avant de pointer le gouvernement américain du doigt, parce qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de tests qui se font présentement. Puis c'est une règle de 3. Plus tu testes de monde, plus tu vas en trouver, là, surtout ceux qui sont asymptomatiques ou très légèrement malades. Puis on a vécu le même phénomène ici, mais ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que le nombre de morts n'augmente pas nécessairement. Donc, c'est pas, on peut pas se faire une règle en disant là, que c'est en train d'exploser vraiment si la seule raison pour qu'on détecte plus de cas, c'est parce qu'on ne fait plus de tests, non?
Oui. Ben, là-dessus, oui, c'est le temps qu'ils fassent plus de tests parce que durant longtemps, ils n'en faisaient pas beaucoup par rapport au Canada. Deuxièmement, le taux de positivité, là. Parmi les gens qui testent, il y en a combien qui sont positifs? C'est très important aux États-Unis, beaucoup plus qu'au Québec. Là. C'est une autre bonne nouvelle pour nous autres. Et la troisième chose, c'est que, vous savez, là, les signaux des gouvernements aux États-Unis sont pas mal moins clairs qu'au Québec et ailleurs au pays. Là. Et ça, ça joue dans la mentalité des gens. Il y a beaucoup de signaux contradictoires au sud de la frontière. Les gens ne savaient plus quoi faire. Puis c'est ce que ça donne maintenant.
Mais attendez, monsieur Duclos, là, je vous laisserai pas dire ça. Là. Per capita, on a quand même plus de morts au Québec qu'aux États-Unis. T'sais, on peut bien se péter bretelles, là, mais on a été frappés plus durement que nos voisins du Sud jusqu'à maintenant. Là. En ratio de population, on a plus de décès ici. Là. On est un des 3-4 endroits les pires au monde.
Ouais, c'est sûr qu'avec la situation des CHSLD, on a eu une situation extraordinairement difficile pour les aînés. Ça, faut le reconnaître de manière très humble. Hein. On a failli... pour bien traiter nos aînés. On parle beaucoup de mourir dans la dignité, mais on parle aussi de vivre dans la dignité pour nos aînés. Ben, c'est ce que ça nous a enseigné, je pense, au cours des dernières semaines. Ceci étant dit, comme vous le dites très bien, Éric, ça va mieux maintenant, puis on peut s'en réjouir, mais il faut continuer à être très prudent.
OK. Là, par rapport aux actions de votre gouvernement, même encore hier, j'étais allé manger au restaurant, là, puis la serveuse, elle était pas... c'est pas une fille qui est politisée, pas en tout, là. Mais elle me racontait que là, ils n'ont pas de plongeur, son boss travaille 90 heures par semaine, c'est l'horreur, ils sont plus capables de trouver du monde. Les étudiants qui étaient là, ils retournent plus les appels, ils veulent pas aller travailler. Là, on peut-tu rassurer ces gens-là puis leur dire que les nouvelles qui ont été annoncées avec la PCU, là, après ça, c'est fini, il n'y aura pas de prolongation, puis ces gens-là vont pouvoir retourner au travail, là, qu'ils n'auront pas encore des chèques à rester chez eux indéfiniment?
Ben, les gens comprennent de plus en plus, puis c'est important que la PCU, c'est une mesure d'urgence et donc une mesure temporaire. Ils comprennent de plus en plus qu'à Québec, on a un taux de chômage d'à peu près 14 %. Le taux de chômage de 14 %, il n'est pas sur le point de disparaître immédiatement. Donc, si quelqu'un a une job là, qui lui est offerte présentement, il y a intérêt à la prendre. C'est vrai aussi pour les étudiants. Le taux de chômage des étudiants qui veulent retourner aux études là, dans les prochaines semaines est de 40 % dans la région de Québec et ailleurs au pays. Ça veut dire que si un étudiant se voit offrir une job, ben, il devrait se compter chanceux puis l'accepter. Ceci étant dit, il y a beaucoup de gens qui s'en cherchent une job et qui ne peuvent pas en trouver. C'est pour ces gens-là que la PCU est encore en vigueur.
OK. Je veux savoir si... Là, je vais faire le tour des dossiers parce que moi, c'est ma dernière émission puis c'est la dernière fois avant qu'on se parle, avant vos vacances, j'imagine, parce que vous aussi, vous allez prendre quelques vacances bien méritées dans les prochaines semaines. je veux qu'on fasse le tour des dossiers parce qu'il y a un paquet de dossiers présentement qui traînent à Québec et on se pose plein de questions. Mais évidemment, on attend tous un troisième lien avec la rive sud, mais c'est pas le fédéral n'est pas le joueur majeur dans ce dossier-là. Mais l'autre pont, le pont de Québec, ça a été un de vos engagements importants en campagne électorale, M. Duclos. Même en fait, les deux dernières campagnes électorales pour le Parti libéral. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qu'on en parle. On en parle un peu moins des médias, mais est-ce que le dossier continue à avancer? Se passe-tu quelque chose avec le pont de Québec?
Oui, il se passe quelque chose. Puis c'est un engagement très, très important que moi, je ne laisserai jamais tomber. Parce que vous savez, on parle effectivement du troisième lien, mais il faut protéger nos deux autres liens, le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte. Et ça veut dire que le pont de Québec, qui est solide, qui est sécuritaire, il doit être entretenu de manière correcte pour qu'il soit là pour encore de nombreuses autres années. Le fédéral, malheureusement, durant longtemps, a évité de s'occuper de cet enjeu-là. Nous, en 2015, on a dit qu'on allait régler le dossier. Monsieur Charest, que vous connaissez probablement de nom, a déposé son rapport malgré la pandémie au cours des derniers mois. Rapport intérimaire en mars, un rapport final il y a quelques semaines. J'ai un rapport avec moi. Les gens à Ottawa l'ont aussi et on est absolument déterminés à aller de l'avant.
J'ai des aînés qui m'écrivent, M. Duclos, pendant qu'on se parle, parce que vous leur aviez dit sur nos ondes à plusieurs reprises qu'il y avait un 300 ou un 500 piastres qui s'amenait, dépendamment s'il y avait la petite ou la grosse pension. Là, ils me disent, ils nous avaient dit ça au début juillet, on est le 3 juillet, on n'a rien, le chèque n'est pas encore arrivé dans le mal, le facteur ne l'a pas encore amené. Est-ce qu'il faut vous leur dire d'être patient? Puis si oui, encore combien de temps?
Ça arrive la semaine du 6 juillet, donc la semaine prochaine. La plupart des gens, les aînés, sont bien connectés, sont technologiquement bien solides. Ils vont recevoir ça dans la très, très grande majorité des cas directement dans leur compte de banque. Pas besoin de faire une demande. Le chèque va être envoyé automatiquement. C'est un seul versement. Pas besoin d'attendre plusieurs versements. Et c'est simple pour tout le monde. Fait qu'il y aura pas d'enjeu. Ils surveillent la semaine prochaine, probablement autour du 6. Sinon, c'est dans la semaine du 6.
OK, j'ai des gens qui me parlent aussi. Évidemment, c'est un dossier qui a retenu beaucoup l'attention ces derniers jours encore. C'est toute la question du racisme systémique. Le premier ministre du Québec aime pas utiliser ce mot-là. Il aime pas utiliser cette expression-là. Je sais que votre chef, Justin Trudeau, aime bien ça, parler de racisme systémique. Qu'est-ce que concrètement, parce que vous pouvez pas, tu sais, je vois Justin Trudeau aller dans des manifestations puis dénoncer le racisme systémique, mais en même temps, là, vous êtes au pouvoir, vous êtes le gouvernement, lui, il est premier ministre du Canada. S'il y a quelque chose qui marche pas puis s'il y a un système raciste, ben, vous avez le pouvoir, contrairement à nous, de le changer. Qu'est-ce que vous allez faire pour éliminer le racisme systémique, si racisme systémique il y a?
Ben, la première chose qu'il faut faire, Éric, dans la vie, là, quand on veut corriger quelque chose, c'est d'admettre que ça existe. Le racisme systémique, c'est lorsque la couleur de la peau a un impact sur la capacité de cette personne-là à se développer, à s'épanouir dans la vie. On ne se cache pas que c'est le cas. C'est vrai aussi pour le sexisme, c'est vrai pour l'homophobie. Il y a des attitudes, souvent inconscientes, qui sont dans les systèmes, dans les organisations, qui font en sorte qu'en matière de logement, en matière d'éducation, en matière de travail, en matière de relations avec la police, la couleur de la peau a un impact sur comment cette personne-là vit sa vie. Donc, c'est pas une question d'attaquer les gens, c'est de reconnaître que ça existe dans notre société. Quand on admet que ça existe, on est plus capable de corriger la situation.
Donc, mais c'est quoi la définition de racisme systémique? Parce que c'est pour ça que le premier ministre du Québec veut pas embarquer là-dedans, parce qu'il dit qu'il y a pas de système raciste au Canada. Vous, c'est quoi votre définition de racisme systémique?
Ben, c'est lorsqu'une femme autochtone a 40 fois plus de chances de se retrouver en prison qu'une femme non autochtone. Cette femme autochtone, elle est née autochtone. Elle peut pas se reprocher d'être née autochtone. Et c'est juste que la façon dont le système évolue, la façon dont elle est éduquée, le travail, le logement, la chance qu'elle a de se trouver une communauté où habiter en sécurité, ses relations avec la police, ses relations avec le système judiciaire. Si elle est arrêtée, par exemple, elle a beaucoup plus de chances d'être amenée en cour. Si elle est amenée en cour, elle a beaucoup plus de chances d'être trouvée
coupable. Mais en quoi c'est un système? Parce que quelqu'un qui est né à Sillery puis quelqu'un qui est né à Vanier, là aussi, probablement que c'est du 40 pour 1, les chances qu'ils se ramassent en prison. Là. Où le système est responsable de ça? Parce qu'il y a des facteurs sociodémographiques, puis ça, vous l'expliquez bien, là, mais c'est pas un système, ça. Ce qu'on a de la difficulté, M. le ministre, à comprendre, là, c'est où le système? La loi, moi, la loi que je vois qui est du racisme systémique au Canada, c'est la loi sur les Indiens. Quand on dit que des gens ont des traitements différents par rapport au gouvernement en fonction de leur race, leur origine ethnique, ça, c'est du racisme systémique. Mais le fait qu'il y a une probabilité plus élevée si t'es né dans telle communauté plutôt que dans telle communauté d'aller en prison, ça me démontre pas que le système y est vicié à la base, ça.
Ouais, mais il y a ça, effectivement. Il y a effectivement des, comme vous dites très bien, des facteurs socio-économiques. Il y a aussi le fait que la couleur de la peau, c'est dommage, mais ça influence la façon dont certaines institutions dans la société fonctionnent avec ces gens-là. De voir une peau plus foncée dans certains quartiers, peut-être pas beaucoup à Québec, mais certainement ailleurs, peut-être plus dans la région de Montréal ou ailleurs dans d'autres régions au Canada, la couleur de la peau a une influence parfois consciente, parfois inconsciente sur la façon dont les agents de différentes sortes dans nos institutions interagissent avec ces gens-là. Mais Eric, moi j'étais comme vous il y a quelques mois. J'ai pas vécu de racisme dans ma vie. Là. J'ai la peau blanche, puis j'ai pas subi de discrimination. Mais lorsque j'en ai parlé au cours des dernières semaines avec des gens qui savent c'est quoi le racisme dans leur vie, parce que eux ils ont souffert de racisme, c'est là qu'on comprend à quel point ça a un impact parfois considérable sur comment ils se sentent dans la vie. Comment ils peuvent s'épanouir?
Mais je suis d'accord avec vous, là. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont racistes, comme il y a des gens qui sont homophobes, comme il y a des gens qui sont sexistes, comme il y a des gens qui aiment pas les chauves, comme il y a des gens qui aiment pas les gros, comme il y a de tout dans notre société. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de système qui discrimine contre eux. Puis quand vous me dites que ça peut être inconscient, mais c'est parce que comment on fait pour réglementer, puis intervenir, puis légiférer quand on parle de l'inconscient? Expliquez-moi donc ça. Politiquement, c'est quoi la solution quand c'est de l'inconscient?
Ben souvent, c'est juste d'être éveillé à nos attitudes inconscientes. Moi, je sais, j'ai suivi il y a quelques semaines à Ottawa, on est obligé de le faire maintenant, suivi une formation pour détecter s'il y a du harcèlement au travail. Bon, moi, je pense pas avoir fait de harcèlement au travail, mais j'ai quand même appris dans cette formation-là que des fois, du harcèlement, il se fait de manière inconsciente. On n'est juste pas conscient de ce qu'on fait, de comment on agit avec l'autre. Fait que il y a des attitudes qui peuvent être changées, entre autres parce que les gens comprennent pas vraiment leurs attitudes au départ. Puis ça se fait de manière, la plupart du temps, très très positive. Les gens en sortent mieux aussi dans leur propre vie. Moi, si je suis mieux équipé pour observer et éventuellement corriger le harcèlement dans mon milieu de travail, bien, je me sens comme une meilleure personne.
Monsieur le ministre, il faut que je vous parle parce que ça a quand même fait beaucoup de vagues au cours des derniers jours. La Ville de Québec a annoncé qu'elle abandonnait le trambus. Donc, ce lien qui devait relier beaucoup des banlieues de Québec vers le tramway qu'on nous promet en ville parce qu'il y a une explosion des coûts de 700 millions du tramway. Je sais que vous n'êtes pas le maître d'œuvre du projet, mais le fédéral en finance quand même un bon bout. Le premier ministre Legault a dit qu'avant de donner son approbation, il attendait de voir c'était quoi l'impact dans les banlieues, puis il a demandé à Régis Labombe d'avoir du temps. Vous, comme important bailleur de fonds dans ce projet-là, d'abord, est-ce que le maire de Québec vous a avisé? Puis si oui, lui avez-vous demandé vous aussi du temps ou si vous avez embrassé son nouveau projet à 700 millions de plus?
Bien, vous l'avez dit, Éric, c'est un très, très gros projet pour la région de Québec. En fait, c'est le plus gros investissement du gouvernement fédéral pour la région de Québec dans l'histoire du pays. C'est aussi un projet qui va permettre à la Ville de Québec d'être un peu comme les autres villes de taille équivalente au pays. On est la seule ville de taille comparable qui n'a pas de réseau qu'on appelle structurant et structuré. Évidemment, la Ville joue avec un budget qui est fixe, et c'est très bien comme ça, donc fait des choix. Ce que j'entends de la Ville, j'ai parlé directement avec le maire, c'est qu'il y aurait une continuité de cette idée de connecter au tramway d'autres dans un sens transversal, là, d'autres quartiers qui ne seraient pas connectés directement avec le tramway. Donc, on a remplacé le trambus par un métrobus. Ouais. Donc, on comprend là, que ça va coûter moins cher pour donc, faire rentrer dans le budget. Ce que j'entends aussi, c'est que si dans 10 ans, on s'aperçoit que, bon, finalement, pour des raisons d'efficacité, il faut remplacer le métrobus par un trambus, que ça pourra se faire plus tard.
Donc, autrement dit, contrairement à François Legault, le fédéral, vous avez pas dit on veut avoir du temps pour réfléchir et analyser tout ça. Vous avez embrassé quand même la position du maire Labombe, la nouvelle monture de son réseau là, de tramway.
On ne veut pas manquer notre chance. Là. On a 1,2 milliard du fédéral qui est à Québec. Si on ne veut pas l'envoyer ailleurs, on veut que ça reste à Québec. Ça a été une grosse bataille pour l'avoir, fait qu'on veut en profiter.
Puis vous répondez quoi à ceux qui disent là, c'est bien sûr que les libéraux ils sont d'accord parce que le projet s'est rendu juste un tramway puis ça avantage les quartiers centraux, c'est-à-dire les deux circonscriptions qui sont libérales, la vôtre puis celle de votre collègue Lightbound, mais alors que autant les banlieues puis la rive sud, vous avez aucune circonscription, fait qu'eux autres, ben vous écoutez moins ces électeurs-là. Vous répondez quoi à ça, ceux qui vous accusent de clientélisme là?
Ben quand on augmente la capacité, l'efficacité du transport en commun, tout le monde en profite. C'est sûr que les aînés, les étudiants, les travailleurs avec un salaire plus modeste qui utilisent davantage le transport en commun, c'est très bon pour eux autres. Mais pour tous les autres là, qui font face à moins de trafic dans le centre-ville en particulier, c'est bon aussi. Ça réduit le temps de voyage, de déplacement de beaucoup d'autres personnes. Ça aide aussi les entreprises. Éric, vous savez, toute la communauté d'affaires dans la région de Québec est en faveur du tramway. C'est pas parce que ils s'inquiètent des aînés ou des étudiants, c'est parce qu'ils savent que c'est bon pour leur modèle d'affaires. Ça facilite le déplacement des marchandises et des voyageurs.
Je veux savoir, parce que les gens de la Rive-Sud, là, ils s'étaient fait dire qu'il y aurait une interconnexion. T'sais, rappelez-vous, là, vous connaissez bien la région mieux que moi. Là. Au début, c'était un SRB qui devait aller sur la Rive-Sud, qui devait traverser au pont de Québec. Vous étiez partenaire dans ce projet-là aussi, monsieur le ministre. Ensuite de ça, le SRB est abandonné, mais il y avait une promesse d'interconnexion de la Rive-Sud. Là, on est en train de mettre 3,3 milliards dans un projet, puis pour l'instant, il n'y a rien pour les gens de la Rive-Sud. Vous disiez de quoi à nos auditeurs qui sont sur la Rive-Sud aujourd'hui?
Effectivement, je regrette beaucoup ça. Je regrette qu'il n'y ait pas un meilleur arrimage entre ce système structurant sur la rive nord puis les besoins de nous connecter avec la rive sud. Vous l'avez très bien dit, Éric, il y avait on parlait du pont de Québec tantôt. Là, on voulait utiliser le pont de Québec pour faire une meilleure connexion entre la rive sud et la rive nord. Ça, c'est quelque chose qui est disparu. J'espère fortement que ça va revenir le plus rapidement possible. Parce que c'est un besoin que tout le monde soit connecté entre les deux rives.
Mais là, on met 3 milliards sur la table. On aurait pu leur en laisser un morceau à eux autres aussi, non?
Bien, la ville de Lévis reçoit une partie des investissements fédéraux, mais a choisi de les investir d'une manière qui, à mon avis, n'est pas aussi bien connectée. C'est pas la faute de Lévis, là. C'est juste que le Québec et Lévis travaillent moins bien ensemble depuis quelque temps qu'ils devraient le faire, je pense, là. Mais c'est moins bien connecté avec la ville de Québec que ça devrait l'être.
Je veux finir, monsieur le ministre, en vous parlant de finances publiques. Je sais que c'est pas un sujet qui est sexy, surtout un vendredi qui fait 30 degrés à Québec, mais il faut quand même en parler parce que ça risque d'avoir des impacts très importants. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, la firme de cotation Fitch aux États-Unis a décoté le Canada, ce qui risque d'entraîner une hausse des taux d'intérêt, puis on voit que la dette fédérale ne cesse de gonfler. On va avoir une mise à jour dans la semaine prochaine là, sur ce qui se passe avec les finances publiques. Mais est-ce que cette situation-là, en tant que président du Conseil du Trésor, ça ne vous inquiète pas? Puis quel message vous avez à envoyer par rapport à la gestion de la dette puis au fait que le Canada est en train de perdre sa cote de crédit?
Bon, il y a trois choses. La première, c'est qu'évidemment, comme président du Conseil du Trésor puis comme citoyen normal, là, il n'y a personne qui est heureux d'un déficit de l'ampleur que l'on a maintenant. La deuxième chose, c'est que ce déficit-là, c'est un déficit qui est un déficit de court terme parce que ce sont des mesures d'urgence. 87% de l'aide qui est donnée aux familles, aux individus, aux entreprises qui vient du fédéral, ce 87%-là, il va diminuer évidemment au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Puis la dernière chose, c'est que l'agence en question, c'est une des nombreuses autres agences qui travaillent dans le domaine d'évaluation des cotes de crédit. Les autres agences n'ont pas changé et n'ont pas l'intention de le faire non plus, leur évaluation du gouvernement fédéral et du gouvernement et des autres provinces, parce que le Canada, incluant évidemment le fédéral, a une des meilleures situations financières et fiscales de tous les pays développés. Donc, c'est sûr qu'on personne qui est content de ce qui se passe avec la crise COVID au Canada présentement, mais quand on se compare...
Attendez, là, quand vous me dites qu'on est les meilleurs, si on est les meilleurs, comment ça se fait qu'on est les seuls des 11 pays qui avaient la cote AAA qui l'a perdue, puis comment ça se fait qu'on a une province maintenant, ce qui est très rare, sinon jamais arrivé dans l'histoire du Canada, qui a maintenant une meilleure cote de crédit que le gouvernement fédéral, la Colombie-Britannique, pas la nommer. Il y a quand même quelque chose qui se passe, là. Vous avez perdu un peu le contrôle de vos finances publiques, là, monsieur le ministre.
Ben, je parlais à des dirigeants de grandes banques il y a quelques jours à peine, et je parlais à d'autres responsables d'institutions financières dans les derniers jours aussi. Quand on regarde en détail ce que l'agence dit, c'est la seule agence d'ailleurs qui a changé sa cote. Elle dit, écoute, à court terme, là, on doit changer la cote, mais les perspectives pour le Canada à plus long terme, on parle des prochains mois, sont très bonnes. Donc, ils s'attendent à réviser à nouveau leur cote, probablement pour la ramener à 3A, mais quand étant donné les difficultés que nous vivons présentement, puis c'est pas juste nous autres, c'est partout dans le monde, l'agence a fait ce choix-là. À nouveau, je pense qu'on peut rassurer les gens. Ouais. Le Canada a une des meilleures situation fiscale et économique et financière de tous les pays développés.
Mais la dernière fois qu'on avait été décoté, M. le ministre, ça a pris 10 ans avant qu'on retrouve notre cote. C'est pas toujours si simple que ça. Vous savez, comme vous connaissez le milieu de la finance, ça peut être très long pour établir. C'est pas long de détruire sa crédibilité, mais c'est plus long, beaucoup plus long de remonter à la côte que de la descendre, là.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Je pense que beaucoup de gens conviennent là, qu'il fallait intervenir de manière rapide et solide dans un contexte d'urgence. Mais les gens s'attendent aussi à ce que le gouvernement canadien transite là, vers un autre régime dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Monsieur le ministre, c'est déjà tout pour notre entrevue. Ça a été un plaisir au cours des 4 derniers mois. J'ai appris à vous connaître. Évidemment, je ne suis pas un libéral, là, je pense que vous savez ça. Il y a quelques personnes à Québec qui s'en doutent. Là, je ne le dis pas souvent, mais c'est un secret de polichinelle. Mais j'ai beaucoup apprécié notre collaboration pendant la crise parce que je pense que les gens avaient besoin de savoir ce qui se passait de votre côté d'Ottawa et de savoir c'était quoi l'aide puis c'était quoi les programmes du gouvernement fédéral. Puis j'ai découvert quelqu'un aussi qui n'est pas très partisan. Ça, j'apprécie beaucoup ça d'un politicien. J'ai même rencontré une de vos adversaire en fin de semaine qui me disait comment vous étiez un homme assez charmant, que vous aviez même pris le temps, après sa défaite, de lui écrire une lettre. Elle était encore très touchée de ça. Elle vous trouvait très gentleman, puis c'est un peu le sentiment que j'avais de vous avoir jasé au cours des derniers mois. Fait que je veux vous remercier, puis j'ai découvert quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et je vous dis à une prochaine, j'espère, Jean-Yves Duclos.
Ben vous aussi, Éric, vous êtes un gentleman et vous savez que les gens vous apprécient beaucoup. Je pense qu'on est tous un peu tristes là, de savoir que vous allez quitter temporairement.
Alors, je pense qu'au Parti libéral, il y en a quelques-uns qui vont essuyer les larmes assez vite. Inquiétez-vous pas, Monsieur Duclos.
Ben là, on vous invite à être sourd aux sirènes d'autres partis politiques qui pourraient vouloir vous solliciter pour la prochaine campagne.
Là. OK, vous avez peur que je m'en aille en politique fédérale? Non, je ne serai pas votre adversaire. Inquiétez-vous pas, c'est pas ça qui va arriver.
Non, mais vous savez que vous avez des très belles choses à faire, Éric. On vous souhaite là, de prendre soin de vous au cours des prochains jours, des prochaines semaines, puis de vous trouver rapidement un autre micro.
À vous aussi. Merci beaucoup, Jean-Yves Duclos. Passez un bel été. Bonnes vacances.
Merci.
Au revoir. C'était donc le président du Conseil du Trésor et député de la circonscription de Québec, Jean-Yves Duclos.